Hier, c'était mon premier jour de projet. Alors, je vous passe toute l'histoire où j'arrive à l'école, j'ai la boule au ventre, on me présente les studios, je passe deux entretiens avec des fragments de book, je parle plus de mon travail associatif et de vidéo que de projet d'archi, où je rentre manger un kebab avec Gwen, c'est pas la question. Depuis ma chaise, dans l'alignement de la fenêtre, je voyais l'Atomium. L'Atomium, c'est un peu la tour Eiffel belge. C'est une gigantesque structure qui était la construction phare de l'exposition universelle de 58, qui avait pour slogan « Bilan d'un monde pour un monde plus humain ». L'idée de cette exposition, c'était de présenter un futur radieux pour l'humanité, avec une paix durable et un progrès global pour que tous les hommes vivent heureux. L'utilisation pacifique de l'énergie atomique représentait bien le thème de cette expo, et c'est ce qui a déterminé la forme de l'Atomium. Une structure conventionnelle d'un cristal de fer a grandi 165 milliards de fois, ce qui donne, pour ceux qui n'ont pas encore fait le calcul dans leur tête, une sculpture slash architecture de 102 mètres de haut avec 9 sphères de 18 mètres de diamètre. L'Atomium a été imaginé par l'ingénieur André Waterkind, connu pour l'Atomium et sa carrière de joueur de hockey au JO de 48, et les sphères ont été aménagées par les architectes André et Jean Pollack. Comme pour la Tour Eiffel, l'Atomium était une structure manifeste de l'expo qui ne devait pas durer plus de 6 mois. Mais fort de son succès, la destruction est repoussée d'année en année avant d'être totalement annulée. Depuis sa construction en 58, l'Atomium n'a pas été entretenu jusqu'à sa rénovation quasiment complète entre 2002 et 2006. Elle est aujourd'hui l'un des symboles forts de la Belgique avec un petit garçon qui fait pipi dans la rue et une place pavée. Bon, je vous rassure, je savais pas tout ça avant et j'ai pas lu toute la page Wikipédia pendant mon cours. Mais il fallait bien que j'ai des trucs à vous raconter, sinon je vais être obligé de laisser des blancs dans ma chronique et c'est pas hyper radiophonique. À la fin de la journée, après l'avoir eu face à mon nez pendant une partie de l'après-midi, je me lève et je prends une photo. Et jusqu'en 2016, ça, c'était illégal. Ouais, je sais, c'est un peu mon côté original gangster qui fait surface. Enfin, ce qui était illégal, c'était de poster cette photo ou de l'exploiter sans accord des ayants droit de l'Atomium, c'est-à-dire les héritiers d'André Waterkind. Moins thug tout de suite. Oui, parce que comme pour les peintures, les sculptures, les musiques et les illustrations, les bâtiments et les sculptures dans l'espace public sont protégés par droit d'auteur. Alors, j'ai pas fait assez de recherches pour avoir toutes les spécificités du droit belge, mais en France, le code de la propriété intellectuelle protège toutes les œuvres de l'esprit dès qu'elles sont originales et portent l'empreinte de la personnalité de l'auteur. Dans le cadre de l'architecture, vu qu'un bâtiment est le résultat aussi du programme et des demandes du client, la protection de droit d'auteur intervient seulement sous deux critères, ça n'est pas un bâtiment fait en série et la construction comporte un caractère artistique certain, entre grosses guillemets, parce que c'est quelque chose de très subjectif. Et perso, moi ça me pose un souci, parce que ça touche directement à l'image de l'architecture et de l'architecte dans notre société. Dans le système de classification des arts, l'architecture est premier de liste. Ça ne veut pas dire que c'est le meilleur art ni le plus populaire, mais plutôt que c'est le premier savoir-faire. En effet, l'architecture pour moi c'est pas un art dans la définition d'une expression esthétique, mais dans le sens d'un ensemble de connaissances, de maîtrises, bref, de savoir-faire. L'architecte n'est pas un artiste, c'est un artisan. Lorsqu'un architecte participe à la construction d'un bâtiment, ça ne devrait pas être l'expression d'une sensibilité artistique propre qui devrait prévaloir, mais sa capacité à résoudre des problèmes, à mettre en espace les problématiques d'un bâtiment. Et surtout, ce bâtiment, il le fait pour un client, pour quelqu'un d'autre. Un bâtiment, ça n'est donc pas une œuvre. Affirmer que l'image de la construction appartient à l'architecte concepteur revient en premier lieu à oublier toute l'équipe de maîtrise d'ouvrage qui était dans le processus, et surtout, cela renforce l'image de l'architecte artiste, qui est pour moi l'une des principales causes de l'isolement des architectes aujourd'hui. Et surtout, cette protection du droit d'auteur s'applique aussi à l'aspect extérieur d'un bâtiment. Donc une photo d'une rue, de l'espace public, techniquement on ne pourrait pas la publier sans l'accord de chacun des architectes de l'ensemble des bâtiments sur la photo. Une étape de plus donc dans la privatisation de l'espace public. Alors bien sûr, je vais à l'extrême, ça n'arrive jamais d'avoir à aller jusque là. Dans le cadre de structures connues ou de sculptures dans l'espace public, bien entendu qu'on applique cette protection du droit d'auteur. Pour revenir à l'Atomium, les héritiers de la famille Waterkind touchaient entre 25 000 et 30 000 euros de droits d'auteur par an selon une série d'articles de 2008. Et ce jusqu'en 2075, c'est-à-dire 70 ans après la mort d'André Waterkind. Joli pactole. Et comme la Tour Eiffel d'ailleurs. Si les photos de celle-ci sont libres de droit aujourd'hui, parce que Gustave Eiffel est décédé en 1923, donc il y a plus de 70 ans, les représentations de l'installation lumineuse sont protégées, car cette dernière est bien plus récente. C'est l'ingénieur Pierre Bidot, qui a d'ailleurs le meilleur nom, qui l'a dessinée en 1984. Donc techniquement, si tu postes une photo de la Tour Eiffel la nuit sur Instagram, tu devrais indiquer en copyright la mention SETE, Illumination Pierre Bidot. Essaye d'aller choper des likes après ça. Heureusement ou malheureusement, le joli pactole de la famille Waterkind, il a été gravement réduit en 2016 avec l'introduction de la liberté de panorama. La liberté de panorama, c'est l'exception au droit d'auteur par laquelle il est permis de reproduire une œuvre protégée se trouvant dans l'espace public. Cette particularité légale, elle existe en Allemagne depuis 1876 et elle rend son caractère public à l'image de l'espace public. En Belgique, c'est le parti OpenVLD qui a proposé cette loi en juin 2016 et elle a été publiée en juillet 2016. Pour la cité, elle autorise la reproduction et la communication au public d'œuvres d'art plastique, graphique ou architectural destinées à être placées de façon permanente dans les lieux publics, pour autant qu'il s'agisse de la reproduction ou de la communication de l'œuvre telle qu'elle se trouve et que cette reproduction ou communication ne porte pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre, ni ne cause de préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur. En gros, pour faire simple, tu as le droit de prendre en photo un bâtiment ou une œuvre qui se situe dans l'espace public. Et ça, c'est plutôt cool. Cette loi, elle a d'ailleurs été portée par Bart Somers, qui était en 2008 bourgmestre de Malines et qui a organisé une exposition pour les 50 ans de l'expo. Face à cette spécificité du droit, il a lancé un appel à des graphistes pour masquer l'Atomium sur toutes les représentations de l'exposition. J'ai trouvé très peu de traces de cette action, mais à chaque fois, l'Atomium était tout simplement découpé et remplacé par un fond noir. Il souhaitait ainsi appeler à une action ludique de guérilla culturelle. Et franchement, je les trouve hyper belles les photos sans l'Atomium. C'est comme si on retirait une pièce du puzzle de l'espace public, et je trouve que ça affirme encore plus la place de ces œuvres dans l'espace public. Donc voilà, la prochaine fois que vous voulez poster une photo de la Tour Eiffel sur Instagram, n'oubliez pas de le faire plus tôt de jour, ou alors soyez discret. On se retrouve demain pour le Relog 15. Cet épisode a été initialement publié en février 2019 sur ma chaîne YouTube dans le cadre d'un défi. C'était un mois de radio sous forme de chronique protéiforme de 5 minutes enregistrée tous les jours et postée le lendemain. Vous pouvez retrouver tous les épisodes originaux sur ma chaîne YouTube qui est dans la description et suivez toutes mes autres aventures sur Facebook et sur Instagram en suivant les liens qui sont en dessous. À bientôt !